Bonjour, j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Bernard Chupin. Bonjour Bernard Chupin.
Bonjour.
Vous venez de publier un livre incroyable qui s'appelle L'ISESCO et le grand remplacement. Quand je dis que ce livre est incroyable, ce n'est pas du tout un livre de fiction, ce n'est pas un livre de commentaires, d'analyse. Vous avez plutôt fait un travail de documentaliste, finalement, si vous êtes d'accord avec ce terme, en travaillant sur les textes de l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, et qui expose sa stratégie à la fois pour le monde musulman et puis aussi pour le monde non musulman, c'est-à-dire en matière d'immigration. Alors j'aimerais commencer par le début. Le livre est publié aux éditions du Alpha. Ça s'appelle L'ISESCO et le grand remplacement, la grande menace. On revient sur ce terme de grand remplacement. D'abord, qu'est-ce que l'ISESCO ?
L'ISESCO, c'est un organisme qui rassemble la totalité des pays musulmans du monde. C'est le second organisme international multiculturel, tout ce que l'on veut, au monde, après l'ONU. Donc c'est un truc énorme qui n'est pas du tout connu, dont on ne parle jamais, mais c'est gigantesque. Ça représente tout le monde musulman qui sévit sur terre. Voilà. Et ces gens-là s'adressent aux musulmans qui n'habitent pas chez eux, mais qui habitent à l'étranger, donc les immigrés, mais qui font partie de l'Oumma, qui font partie de la civilisation globale des musulmans du monde. C'est ce qu'ils nous expliquent. Et ce n'est pas moi qui parle, c'est eux qui parlent, c'est eux qui se définissent
ainsi. C'est ce qui est intéressant. Alors, l'Oumma, c'est un mot qui commence à être connu, même maintenant du grand public. Il a été employé par beaucoup d'hommes politiques. L'Oumma, en résumé, c'est la nation musulmane qui dépasse toutes les frontières. Voilà. Chaque musulman, c'est ça, fait partie de cette Oumma. Vous êtes d'accord avec...
Oui, de naissance. À partir du moment où un bébé est né,
musulman.
Il fait partie de l'Oumma, que ça lui plaise ou non.
Comment avez-vous été amené à travailler sur ces dossiers?
Eh bien, c'est tout à fait par hasard. Vous savez, je fais comme beaucoup de monde, je m'intéresse au monde que l'on est en train de construire pour nos enfants, nos petits-enfants. Alors, je travaille aussi sur Internet, je fais des recherches comme tout le monde, et puis je fais des tris et je fais des choix. Et là, je suis tombé sur l'ISESCO, qui est un organisme qui dépend de l'OIC, qui elle-même dépend de l'Oumma, qui rassemble tous les éléments du monde. Donc c'est une structure qui paraît un peu complexe, il y a beaucoup d'interconnexions, mais le but est très clair et ça vise à créer des stratégies de conquête qui sont pas forcément violentes, qui au contraire peuvent être culturelles, très agréables à regarder, mais qui sont extrêmement dangereuses.
Alors vous les jugez extrêmement dangereux. Certains peuvent les juger extrêmement dangereux. Est-ce que c'est pas normal finalement ? Est-ce que finalement ce qu'ils font, je vais essayer d'être à leur place. Est-ce que ce qu'ils font, c'est pas ce que les Américains font aussi ? Voilà, ils essayent dans le monde entier de faire en sorte qu'on parle anglais, qu'on ait des McDonald's et qu'on regarde des films américains.
Mais absolument, absolument. Même nous, les chrétiens, nous avons eu aussi des comportements destinés à convaincre les peuples du monde entier. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. C'est ça. Je ne porte pas le jugement de valeur. Je dis simplement, il se passe cela. On l'accepte ou on l'accepte pas. C'est tout.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que si je fais un parallèle, comme je l'ai fait par exemple avec les Américains en disant partout ils vont dans le monde, ils veulent qu'on parle anglais, ils veulent imposer leur méthode, leur système de pensée, leur droit même, le droit anglo-saxon, on dit ça c'est normal et tout le monde le reconnaît. Alors que quand on parle des musulmans, on craint déjà de le dire par crainte d'être accusé des pires mots. Hein, voilà.
C'est terrorisme intellectuel.
Alors... Il s'adresse, il travaille sur les musulmans qui ne sont pas en terre musulmane, donc. comment contactent-ils les musulmans finalement ? Par des journaux, ils arrivent, il y a des canaux, il y a des relations, il y a des sortes de centres culturels qui relaient cette parole.
Vous savez, les choses dans l'islam se font de manière organique, très simple. On s'installe, donc on crée une mosquée. On crée une mosquée, donc on crée des écoles coraniques. On crée des écoles coraniques, donc on crée une jeunesse qui s'ouvre à l'islam. Et puis on passe le relais. Et puis ces gens-là grandissent et eux-mêmes deviennent des porteurs des messages. C'est une grande machine qui n'a pas tellement de structure que l'on peut définir. On peut pas faire d'organigramme comme on le fait dans l'industrie. C'est quelque chose de naturel. C'est ça qui est difficile à cerner et qui est, à mon avis, qui est un petit peu pervers, un peu dangereux. Mais vu de leur côté, c'est parfait, c'est tout à fait logique. Moi, je peux pas leur reprocher. Ce que je reproche, c'est pas ce qu'ils font eux, c'est ce que l'on fait nous en refusant de reconnaître le danger que ça représente pour nos civilisations.
Justement, est-ce que beaucoup de musulmans, finalement, le font naturellement ? Il faut pas voir de la quelconque stratégie, non, diabolisation machiavélique. Ce que je veux dire, c'est quand les Bretons, voilà, quand vous avez des Bretons qui s'installent dans une ville, à l'autre bout du monde, vous avez une crêperie bretonne qui apparaît, les Bretons se mettent dans le même quartier, ils font des fêtes bretonnes entre eux, c'est un peu pareil, voilà.
Oui, mais les Bretons ne prétendent pas conquérir le monde entier. Quoi qu'à une époque, avec les marins que l'on, oui, avait, on pouvait conquérir le monde, voilà, les mers, oui, les mers du monde entier. Non, il s'agit d'une stratégie de conquête. Bon, ce que font les Bretons avec leur crêperie, c'est formidable, c'est charmant, mais c'est la joie de vivre, oui, c'est justement l'enrichissement culturel mutuel. Mais eux, les musulmans, qu'ils le veuillent ou non, je peux pas leur reprocher, ils veulent que leur religion arrive à conquérir le monde.
On va employer le terme. On va employer, oui, le, oui, terme. S'impose. Alors,
oui, d'ailleurs,
oui, je vous en prie.
D'ailleurs, si on lit bien la stratégie de conquête que l'ICESCO a publiée, qui est l'objet de mon petit opuscule, à terme, c'est très très clair que la conversion des infidèles est le but ultime.
Alors, quand on dit cela, ça peut faire peur à certains, la conversion des infidèles est le but ultime. Il ne s'agit pas que demain, dans les quartiers, des gens vont venir avec des sabres. Les documents de l'organisation et de l'ICESCO montrent que cette conversion se fait sur un temps long, c'est-à-dire, oui, par les naissances, par le mariage, par la conviction. Et puis après, quand c'est une, oui, majorité, la majorité s'impose. C'est un peu
ça,
ce qu'on retient. Hein,
Mais c'est vraiment le temps long, très long, très long, puisque l'islam, depuis sa création, a toujours eu des vocations internationales. Et qu'est-ce qui les a arrêtés ? Ils ont eu une période, des périodes historiques un peu plus faibles, mais il y a aussi les colonisations. Les colonisations ont un petit peu bloqué l'évolution de l'islam. Il est certain que, par exemple, en Algérie, l'islam avait tout à fait libre cours, mais toutes les stratégies de conquête se sont trouvées un petit peu neutralisées. Mais dès que l'on a quitté ces régions-là, bon, on a bien vu ce qui s'est passé, mais alors là, il y avait les deux, il y avait la violence et il y avait aussi la méthode culturelle, l'envahissement culturel.
Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de quel islam parle-t-on ? Finalement, parce que vous avez un islam qui est chiite, d'autres sunnites, un islam radical, un islam qui est plutôt modéré, ou un islam plutôt occidentalisé, comme dans certains pays du Maghreb, ou voilà.
Oui. Alors,
comme en Jordanie, voilà.
Oui, oui, absolument. Comme le sultanat d'Oman, par exemple, qui est très, voilà, très pacifique, etc. Mais c'est justement ça qui est inquiétant. Et qui ressort de ces écrits qu'ils font, c'est que tous ces pays-là sont signataires de la stratégie de conquête. Parce que l'ISESCO, c'est une stratégie de conquête. Et tous les pays du monde musulman ont tous signé la stratégie. Il faut chercher sur Internet.
Oui, puisque par définition, tous les pays du monde musulman sont membres de l'ISESCO.
Oui, hein. C'est ça. Il y a même des pays observateurs, je crois, que la Russie, la Thaïlande, etc.
Oui, puisqu'il y a des fortes communautés.
Oui, oui. Alors, ils ont des élus, des membres observateurs aussi. Mais là, c'est assez curieux parce que. Là, on parle plus de sunnites, de chiites, non, c'est curieux. Ils ont tous été d'accord pour signer quand il s'agit de convaincre le monde entier à l'islam. Et on parle bien d'islam.
Alors,
on parle pas d'islamiste.
Oui, j'ai bien compris.
On parle d'islam, qui est une très belle religion par ailleurs. Hein. Moi, je disais que j'ai voyagé beaucoup dans ces pays-là. La ville que je trouve la plus belle du monde, c'est Samarcande, en Ouzbékistan. C'est une ville absolument splendide. Donc, c'est séduisant, c'est extrêmement séduisant. Je ne dis pas que ce sont des religions laides ou perverses. Non, mais ils jouent leur propre rôle. Ils ont envie de partager leur bonheur avec le monde entier. Et nous, on ouvre nos portes en grand et nos bras en grand en disant « welcome ».
Que dites-vous à ceux qui pourraient vous rétorquer « Ne vous inquiétez pas, de toute façon, ce sont des grandes déclarations de principes qui sont signées certes par tous les pays musulmans, mais qui ne s'entendent pas entre eux, oui. Et ils sont sur le principe, voilà.
Oui. » Oui, ben c'est sûr que...
Et qu'il ne faut pas croire que ce seront les talibans, quoi, voilà.
Oui, oui, beaucoup de gens disent ça, mais les vagues de l'histoire, vous savez, qu'est-ce que... La question de la natalité, attention, il faut pas mal interpréter ce que je dis, mais le taux de reproduction, ils le disent dans leurs écrits, ils disent que c'est une des armes pour la conquête pacifique des pays mécréants. Donc ce n'est pas innocent. Au-delà de leurs divergences, il y a l'islam. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas mélanger l'islam. Mais là, l'islam, il est bien. C'est pas l'islamiste, c'est l'islam qui regroupe au sein de l'ISESCO et de l'OIC l'ensemble des musulmans du monde entier.
Alors,
c'est pas moi oui. qui l'ai inventé, c'est eux. Hein.
Le livre, ce qui est intéressant dans votre livre, c'est qu'il n'y a pas de commentaires, on peut pas qualifier de livre complotiste écrit par un farfelu qui dit ah, c'est le grand remplacement, battez-vous, etc. Vous ne faites que photographier finalement à travers ce travail de documentaliste les travaux de l'ISESCO. On l'a dit au début de l'entretien, qui est une sorte d'ONU du monde musulman, l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture. En résumé, cet ISESCO dit que la vocation de l'islam est de s'étendre sur tous les continents, dans tous les pays, y compris ceux qui ne sont pas musulmans, et que tous les musulmans doivent œuvrer dans cette extension, par le mariage, par la naissance, par l'infiltration.
Sûr.
Le terme d'infiltration n'est pas outrancier, voilà.
Non, c'est une conquête.
La culture, voilà, c'est une conquête parce qu'ils ont le temps. Voilà, ça peut,
par la séduction,
ça peut se faire sur 50 ans, sur 100 ans, mais cela se fera.
Et puis, vous savez, il y a quand même des lois naturelles qui font que lorsque une minorité dans un pays devient importante, très importante, qu'elle peut même devenir une petite majorité, eh bien, l'ensemble bascule. L'ensemble bascule et finalement, même ceux qui, à l'origine, étaient bienveillants, ils feront comme tout le monde parce qu'ils pourront pas faire... C'est leur propre religion. Mmh. Ils diront, bon, c'est l'évolution de ma religion. Donc le risque est vraiment important. Voilà, je sais pas si je me
ce risque est-il... Oui, mais est-ce que ce risque...
C'est un texte...
Vous voyez...
Moi, je vous conseille de lire le texte. Je conseille à nos amis de lire le texte et même de rechercher sur Internet les 150 pages originales. Ouais. Moi, j'ai réduit l'essentiel, mais j'ai voulu faire un opuscule très petit parce que, justement, les choses sont, au fond, très simples.
Que dites-vous à ceux qui vont vous rétorquer ? Bon, bah, ok, on en prend acte. Et alors ? On a bien vu que parfois, souvent, dans ces débats, ça ne dérange pas certaines personnes qui se disent si c'est l'évolution naturelle, pourquoi pas ? Vous l'entendez,
oui.
Hein, ça ?
Oui, oui, mais bien sûr, on a, vous savez, on a l'habitude d'entendre des références à la Seconde Guerre mondiale. On pourrait aussi dire qu'en 1940, on pouvait penser la même chose aussi. Hein. Mais je porte pas de jugement hein, sur la guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Mais je veux dire, le phénomène est là. Et apparemment, oui, un homme comme Mélenchon, par exemple, il en rajoute même dans ce sens. C'est évident.
Merci Bernard Chupin. Vous publiez donc aux éditions du Alpha ce livre sur l'ISESCO et le grand remplacement. Ça va intéresser tous ceux qui s'intéressent finalement à l'évolution des civilisations. L'ISESCO, c'est, comme on l'a dit, l'ONU du monde musulman, de tous les musulmans, hein, peu importe, les modérés comme les pas modérés, et qui donne finalement sa feuille de route pour que l'islam s'impose.
Oui,
pacifiquement, on l'a bien dit, pacifiquement, oui, oui. On l'a pas dit, voilà, par les armes, s'impose dans le monde entier sur un temps long à travers des mariages et plein d'autres choses et la culture.
Et passionnant. La séduction culturelle.
Et la séduction culturelle, voilà. Merci Bernard Chupin de nous en avoir parlé.
Merci à vous.
Et le grand remplacement.
Merci à vous et vive la Bretagne.